curieuses. Salut Van, ça va?
Salut, ça va toi?
Et oui, ça va. Qu'est-ce que t'as fait de bon cette semaine?
Que j'ai fait de bon? J'ai fait tellement d'affaires que je m'en souviens plus que j'ai fait parce qu'il y a trop d'affaires. J'avais deux marchés en même temps, plus la boutique, plus un show de Steel Panthers.
Un show de quoi?
Steel Panthers.
Je connais pas.
I would give you the stars in the sky.
Oh my God.
But they're too far away. If you were a hooker, you know, I'd be happy to pay.
Non, mais c'est excellent.
Oui, mais tu connais pas Steel Panthers?
Ben, pas tant, mais là, cette tune-là me dit quoi, mais
c'est comme... C'est ça qui... En fait, c'est que ça fait 6 mois, je voulais aller le voir en show, genre. Puis là, j'étais comme, je peux pas, j'ai le show de tattoo, puis ça finit à minuit, puis le show commence à 7 heures. Finalement, Laurie à la régie.
Laurie elle sauve des vies.
Elle a sauvé la vie. J'ai pu aller voir mon show de Steel Panthers. Et puis, après ça, on a conduit jusqu'à Ottawa. On est arrivé à 3 h du matin. Puis, j'avais le Comic-Con à 9 h le matin à Ottawa. J'ai fait ça, j'ai dépacté, je me suis envenue, j'ai fait les lunchs, j'ai fait le lavage, j'ai préparé ça à l'école, j'avais porté les enfants à l'école. J'ai fait mon live, j'ai l'école à faire, des téléphones, j'ai même pas fini. Fait que c'est ça.
Puis là, t'es rendu ici.
Fait que j'ai pas profité de la fin de semaine tranquille. Fait que c'est ça. Là, je suis en congé aujourd'hui.
Yeah! Moi, en fin de semaine, il y a une couple de mes taxidermies qui ont assisté à un tournage. Mm-hmm. Ouais, même pas moi. Moi, j'étais pas dans l'écran. Non, mes taxidermies, c'est qu'il y a quelqu'un qui voulait, qui avait besoin de taxidermies de chats, de chiens, d'animaux domestiques, en fait, juste pour une courte séquence pour la série Le Bonheur de la saison 3. Ça se passait genre dans un centre pour personnes âgées autonomes. Fait que je me suis vraiment déplacée là. Puis là, j'ai amené de la taxidermie. Puis il y avait la seule petite scène, c'était genre, ici, on a de la taxidermie. On a des animaux qui font de la zoothérapie. Mais
de la zoologie.
De la zoothérapie, mais ils sont empaillés justement pour ne pas blesser nos occupants. Ah. Fait que c'était juste ça, le gag. C'était une phrase, mais c'est ça. Je me suis déplacée, j'ai amené comme 3 chats, 2 chihuahuas, un lapin, puis une sculpture de chat sphinx en silicone. Non, lui, il n'était pas là. Lui, il n'était pas là. Shadow qui s'appelle, ça a l'air?
Oui, ça a l'air.
OK, ça a l'air. On va l'appeler Shadow. Puis, c'est ça. Fait que je me suis levée comme... Je suis partie à 8h30 le matin. Je suis revenue à 5h le soir. Fait que c'est comme une journée de travail pour avoir amené de la taxidermie, puis la mettre là, faire la séquence, la reprendre, puis attendre toute la journée parce que c'est ce qu'on me dit sur un plateau de tournage. Les gens attendent, ils attendent. C'est puis long. Ce qui n'était pas très drôle, c'est qu'il y avait une figurante, une madame plus âgée qui était figurante. Puis elle, son rôle, c'est qu'il fallait qu'elle prenne un chat, puis il fallait qu'elle flatte, tu sais, pour dire « Oh, il est beau petit chat ». Mais l'affaire, c'est qu'elle était tellement pas à l'aise, puis moi, j'étais tellement pas à l'aise d'y imposer ça, de « Ben oui, tu peux le prendre, mais là, maintenant, dans tes bras », puis t'es comme « Les choses qui me font faire ici, ça n'a pas de sens ». Je me sentais tellement mal pour la madame qui faisait de la figuration, là, mais elle a été comme super bonne, puis tout, mais en tout cas, je me sentais un petit peu mal.
Un petit pensée.
Oui, un petit pensée pour madame qui a été forcée de flatter un chat en taxidermie.
Ouais,
fait que c'est ça. Hey, aujourd'hui, on a encore des questions. On va parler un peu de n'importe quoi encore parce qu'on saute tout le temps du coq à l'âne. On veut parler des fois d'un sujet super précis, puis en fait, on parle carrément d'autres choses. Fait qu'on s'est dit, whatever. Journée libre.
Journée libre, whatever. On se pose des questions.
Puis, OK, moi, d'abord, je vais commencer tout de suite.
Comment ça va m'intéresser?
J'en ai une couple de questions que j'avais déjà préparées, en fait, de l'autre épisode qu'on avait fait Q&A.
J'ai jeté, moi, ma feuille.
C'est pas grave. L'animal le plus dégueu sur lequel tu as déjà travaillé?
Moi?
Ouais.
J'avais-tu raconté mon histoire du serpent qui avait pourri?
Ah!
J'avais-tu raconté? Non, c'était dans mon appartement. Non. C'était. OK. Eh bien, je vais raconter. Puis, garde, au pire, ceux qui l'ont écouté, vous le saurez une deuxième fois.
Ben non, c'est vrai, tu l'as peut-être raconté. Bon, ben, gars, on va couper cette bout-là. Fait que je vais recommencer.
Non, mais le serpent qui est gonflé, puis que.
Mais je pense que.
Le pot a pété, puis tout.
Ouais, tu l'as raconté. Puis. Ah, c'est une question que j'avais pas enlevée. OK. Fait qu'on va faire un coupage. C'est bon? OK. Fait que. Je vais te poser une première question. L'objet de ton musée. Que tu es le plus fier d'avoir pour sa rareté?
Hmm.
L'objet le plus rare, là, comme tu es super proud d'avoir. Là.
Ça, c'est une bonne question, tu vois, parce que chaque objet est rare en, sa, en son...
Non, mais comme l'objet là, que tu peux braguer là-dessus, tu fais comme « Ah, moi, j'ai ça!
» Mais je check
pas. Ah, là, je sais que... Ouais. Non, il n'y a rien qui
vient. Je ne sais pas, tu sais, mettons, j'ai plusieurs catégories. Si on irait, mettons, dans la taxidermie, ben j'ai un pangolin.
Mm.
Ça, c'est vraiment cool, là, tu sais.
C'est vrai.
Genre, il n'y a personne.
Le fameux pangolin là, qui aurait starté une pandémie. Là.
Oui, c'est ça. J'ai cette chose-là que les écailles sont tellement exotiques que le monde les broie pour se faire des jus.
Ah oh oui, mais en Chine, ça broie n'importe quel animal.
C'est un animal qui est en danger aussi. Oh, oui. Ça. Fait que ça, j'ai un pangolin qui provient de l'Université McGill. Si on y va dans la section crâne, je te dirais que, bon, ben momie paraca, momie péruvienne... complète, tête allongée. Ça, c'est quand même des...
Ben oui, t'es, moi, j'en demandais juste un, puis toi, t'es ouais. Là. Moi, j'ai ça, moi, j'ai ça.
Non, mais tu sais, j'ai...
Mais c'est
parce
très
que
cool.
C'est pas dans la même catégorie, tu sais. Si on y va dans, mettons, dans les pierres, puis tout, j'ai des météorites vraiment cool. Une météorite qui vient de Mars. Là, ah! Ouais. Fait que ça, okay, ben, je peux vous expliquer le processus de la météorite. Hey, ça, c'est vraiment cool. En fait, quand j'ai acheté cette météorite-là, tu sais, bien sûr qu'il y en a qui sont gros comme des
ouais, grains des de sable. Fois, c'est des petits grains.
Là, j'étais comme, je peux pas avoir un morceau grain comme un grain de sable dans ma collection. Il faut que le monde le voit. Donc, j'ai pogné
c'est impressionnant.
Plus gros. Tu sais, c'est quand même, c'est pas si gros, là, c'est peut-être 2 par 2 cm, mais quand même, j'ai demandé au gars, comment tu fais pour savoir que la météorite vient de Mars? Donc, qui m'a répondu, c'est super intéressant, dans le fond, c'est qu'ils font analyser des... Ben, en fait, lui, il est chez eux, puis c'est un chasseur de météorites, ce gars-là. Fait qu'il y a une application qui track les corps célestes qui rentrent dans l'atmosphère, puis après ça, il y a un périmètre de comme 1 à 2 kilomètres de où ça leur est tombé.
L'impact.
Fait qu'ils s'en vont là chercher la météorite. Donc, celui-là, il l'a ramassé dans le désert, parce que dans le désert, c'est comme plus facile. Il y en a beaucoup qui ont tombé même avant ça. Donc, quand tu cherches une météorite, tu vas pouvoir en trouver peut-être une autre vieille qui avait tombé avant. Donc, c'est tellement distinct du sable, des fois, mm-hmm. comme les plus gros morceaux.
Puis, est-ce que ça peut faire aussi, tu sais, à l'impact, le sable peut se transformer aussi
oui.
en vitre?
Oui, on appelle ça la vitre du désert, là, le glass desert. Là.
Oui.
Puis, ça fait que la vitre devient. Le sable devient de
la vitre.
Oui, exact, à cause de l'impact.
Ça,
chaleur,
c'est un bon indicatif ça. Qu'il y a eu une météorite proche.
Exact, wow. Exact. Fait qu'il y a ça. Puis, ce monsieur-là avait ramassé cette météorite-là et il m'a dit qu'il était là avec le tamis. Puis, il passait à côté pour essayer de ramasser tous les petits morceaux qui étaient dans la même gamme de couleurs et tout ça. Puis, ils ont fait tout analyser ça. Puis, dans le fond, la formule chimique qui est sortie de l'analyse, et c'était la formule avec... Là, je me souviens plus, c'est l'hydroxyde ou l'oxyde ou le carbone, ou en tout cas, de exactement l'atmosphère de Mars. Ça veut dire que la seule place où elle aurait pu être créée avec cette formule chimique-là, ça serait sur Mars.
Mais pour qu'elle vienne de Mars, ça veut dire qu'il y a une météorite, supposons, qui est tombée sur Mars, qui a fait des débris qui sont partis dans l'atmosphère,
exact.
Qui sont retombés, en fait, sur Terre.
En fait, c'est ça, c'est que, dans le fond, la météorite aurait tombé sur Mars. Ça aurait revolé dans l'atmosphère, ça aurait pogné une ceinture d'astéroïdes qui aurait tourné et que là, il y a eu un autre genre de météorite qui aurait poussé ces météorites-là à retomber sur Terre.
Wow!
Donc, tu te dis, c'est tout un processus de millions et millions
c'est
d'années.
Tellement
là.
Comme... C'est aléatoire, tellement.
Exact,
là.
C'est pas un morceau de roche qui a été pris sur Mars puis qui a été amené ici. Non, c'est vraiment une météorite qui s'est ramassée dans l'espace, qui s'est ensuite ramassée sur Terre.
C'est
fou, ça, je trouve ça vraiment cool. C'est pas une pièce qui est impressionnante parce que quand tu la regardes, ça a l'air d'un petit morceau de gravelle.
Ouais, mais toi, tu sais l'histoire
mais
qui vient
ça,
avec.
C'est l'histoire qui vient avec qui est super intéressante.
Je suis sûre que tu serais là à côté de la personne. Non, mais tu comprends pas. Tu comprends pas qu'est-ce qu'elle a vécu, cette petite garnette-là.
Mais c'est pour ça que j'avais comme pas le choix de l'acheter. Quand je l'ai vu, j'étais comme, est-ce que j'achète un esthétique de beaux cristaux, genre full cristallisé, multicolore, ou bien j'achète un petit morceau de granite, genre qui vient de Mars.
Comme... Que n'importe qui regarderait ferait comme.
Mais.
C'est une garnette.
Fait que, ben, ça,
mais
c'est...
moi, je trouve ça très cool.
Ouais,
je veux que tu me la montres tantôt quand on va avoir fini. S'il te plaît.
C'est vrai que c'est ça. Puis toi?
Ah, moi, là, mon Dieu, ben, moi, j'ai pas tant un musée. Hein, fait que, mais c'est sûr que les objets les plus précieux, pour moi, c'est tout le temps les meilleurs taxidermiques que je réussis, d'un sens. Tu sais, c'est quelque chose que je vais faire de mes mains qu'il va y avoir un produit final, puis je vais faire...
T'es fière de ton
je vois
travail,
pas d'imperfection. Parce qu'en fait, moi, dans mon travail, tout ce que je fais, c'est je spot les imperfections. C'est, je fais juste regarder. Non, ça, c'est pas correct. Ça, j'aurais dû le faire différemment. Ça, j'aurais pu faire mieux. Fait que quand je réussis à faire une pièce que je suis comme... flawless, tu sais, ça arrive pratiquement jamais. Puis même, je vais penser qu'elle va être flawless, puis je vais la garder avec moi, puis supposons un an ou deux après, des fois, c'est juste quelques mois plus tard, je la regarde, je suis comme, ouais, j'avais plus ça, j'avais pas vu ça, mais genre, sa paupière, hein, pas pareil comme l'autre, puis tu sais, l'oreille, j'aurais pu la mettre un peu plus en avant, puis tu sais, fait que c'est, avec le temps, j'ai tout le temps comme une pièce plus précieuse.
Ça, c'est des détails que toi, tu remarques, mais que personne d'autre remarque.
Je le sais. Fait que, ça fait tout le temps en sorte que quelqu'un fait comme, « Oh, my God, il est tellement parfait! » Moi, je suis comme, « Ouais, mais quand il y a ça. » Non, tu sais, non, il n'est pas parfait. Puis, fait que, j'haïs ça. Je m'haïs quand je dis ça. Je m'haïs complètement.
Quand je fais des souris, plus qu'ils sont laides, plus je les trouve drôles.
Oui, mais ça, c'est un autre domaine. Tu sais, il y a vraiment un bon marché, pour vrai, pour le creepy taxidermy, le derpy taxidermy, tu sais. Puis, je comprends l'engouement des gens que, ah, oh, elle est laide, ah, oh, elle est cool, je la veux, tu sais. Puis, il y a même des artistes taxidermistes qui vivent de tout ça. Je vais nommer juste de même Adèle Morse. Tu la connais sûrement pas, mais tu connais sûrement, par exemple, une de ses pièces, c'est le renard qui est assis, là, qui a l'air lendemain de brosse, là.
Oui.
Bon, ben ce renard, là, c'est Adèle Morse qui l'a fait. Puis c'est volontaire qu'il aille se... Il n'a pas été mal fait par accident, ce renard-là.
C'était
tout est pensé, tout est songé. C'est esthétiquement laid. C'est ça l'affaire. C'est qu'elle est capable de rendre quelque chose esthétiquement laid. C'est vraiment la meilleure manière de le décrire. Puis cette fille-là, j'ai vu ses œuvres qu'elle a faites par le passé. C'est qu'elle était capable de faire des taxidermies extrêmement belles, mais ça se vendait pas. Les gens voulaient pas ça. Les gens veulent pas un renard qui a l'air d'un renard, des fois.
C'est
je te dirais, ça fait à peu près quand même entre 7 et 10 ans. Ça fait quand même assez longtemps.
Mais ça avait l'air d'une pièce qui était beaucoup plus âgée, mettons.
Ce renard-là, c'est la première pièce de Derpy Taxidermy. Il y en a eu plusieurs autres après. Il y a eu aussi le petit mouton qui est debout, là, qui est bien, bien drette, là, avec les yeux sortis de la tête. Lui aussi, c'est un mime incroyable. Tout le monde l'utilise en mime. Mais il y a une grosse histoire vraiment incroyable avec le renard lendemain de brosse, là. C'est qu'elle l'avait vendu au début à quelqu'un, que cette personne-là l'a revendu. Ce renard-là, il s'est promené longtemps. Puis un moment donné, je pense, il y a à peu près 2 ans ou 3 ans, elle a fait une campagne de recherche. Elle voulait racheter son renard parce que c'était rendu un mime. Puis elle était comme, my God, mon renard, ma pièce, tu sais, que j'ai faite est un mime. Je le veux. Tu sais, je veux qu'il revienne chez nous, je veux qu'il revienne à la maison. Fait que c'était justement ça. Elle a fait une campagne de recherche, puis elle l'a retrouvé, puis elle a dit au propriétaire, combien tu veux pour, c'est moi qui l'ai fait, je veux le revoir. Puis elle a payé le gars, je sais pas combien, mais il est revenu à la maison, puis à cette heure, c'est son bébé. Elle fait encore plein de mimes avec, là. Elle le met dans des situations. C'est vraiment cool, mais cette fille-là, c'est justement la reine du derp taxidermie qui est vraiment bien faite. Mais elle gagne mieux sa vie, en fait, en faisant ça, qu'en faisant de la taxidermie traditionnelle, qui est extrêmement bien faite. Fait que, tu sais, des fois, quand tu t'en vas chercher un marché un peu plus niche, un art un peu plus niche, tu sors du décorum, là, tu deviens vraiment quelqu'un, tu es reconnu pour ça. Puis je suis contente, en fait, malgré que je ne suis pas une fan de derp taxidermy, je suis contente pour elle. Elle a vraiment réussi dans son domaine, puis elle le fait extrêmement bien.
Mm-hmm.
Fait que c'est très cool.
Non, mais je t'ai dit, moi, quand j'en ai, ça pogne tout de suite,
Mais il y en a, toi, c'est plus comme, parce que c'est vintage ou c'est des accidents de parcours.
Oui, c'est ça. Quand même, ça. Je collectionne pas ça nécessairement.
Mais il y en a que c'est leur marque de commerce.
C'est ça. C'est sûr que je te dirais que des fois, je vais avoir un morceau de derp taxidermie, mais d'un animal qui est super rare. Puis là, je suis comme, ben, je vais le garder parce que crime, l'animal est rare.
Bien, souvent, ça arrive énormément avec les félins. Les guépards, les léopards, les lynx. Je sais pas pourquoi, mais les félins. Les gens ont de la misère avec les félins. Je comprends pas pourquoi.
Oui.
En tout cas.
Les proportions des yeux par rapport à la face, je comprends ça.
Mais c'est sûr que, tu sais, quand que je travaille sur un chat, là, comme justement le beau petit monsieur ici, mais tu sais, le regard, c'est sûr que je vais mettre des fois une demi-journée de travail, juste le positionnement des yeux, quand que je vais mettre la peau, placer les paupières. Je veux tellement que ça, ça soit réussi. Les pattes arrière, des fois, j'ai botché un peu. Je suis comme bah. Des fois, là, tu sais, la longue couture que tout le long du dos, là, au début, je la commence super bien. Puis à la fin, je suis comme bah, je fais des gros points, je m'en fous.
L'important, c'est son regard, c'est son visage, c'est ce qu'on voit.
Oui, oui, oui. Mais tu sais, de toute manière, lui, quand que je l'ai faite, tu sais, je le savais, là, c'était pour être un des miens. Tu sais, c'est pas le travail d'un client. Tu sais, quand c'est le travail d'un client, tu sais, je vais pas botcher, je vais pas faire les coins ronds.
Quand tu fais un travail d'un client, est-ce que les clients t'emmènent des photos de leurs animaux, puis toi, tu essaies de le faire le plus possible pareil, ouais, ou tu y vas vraiment comme les...
Bien, c'est sûr que si les gens peuvent m'apporter des photos, là, oui, je vais les prendre, puis je vais vraiment... Là, supposons, des fois, c'est des photos par ordinateur. Fait que, tu sais, je sors mon laptop, je le mets là, j'ouvre les photos, je les regarde pendant que je travaille, j'essaie d'avoir la même physionomie du visage. C'est quand même assez... c'est long, c'est un long travail. Puis des fois, ça me tente pas, mais... C'est pour ça que je décide aussi quand que je travaille. Des journées, je suis comme, je le file pas, je le ferai pas, parce que sinon, je sais, je vais botcher, puis je me connais. Là. Mm-hmm. Mais des journées, c'est ça. Fait que oui, c'est un long travail, mais quand j'ai pas de photos, quand la personne... Mais tu sais, c'est rare des clients qui n'ont pas de photos de leur chat, non, là, je veux dire. C'est mais ça. C'est déjà arrivé. Puis dans ce temps-là, ben j'y vais au mieux de mes capacités. Mais tu sais, de toute manière, je vais aussi tout le temps faire un moulage du crâne. Oui. Un coup que je vais skinner.
La grandeur est exacte.
C'est ça. C'est sûr qu'il manque de la précision au niveau... Tu sais, on s'entend que quand tu enlèves la peau du visage d'un animal, il y a quand même certains muscles, certains gras qui vont venir avec la peau qui ne sera plus sur le crâne que je vais faire le moulage. Fait que ça, ces parties-là, il faut que je les rajoute. Mais tu sais, moi, je les ai enlevées en dégraissant la peau. Fait que tu sais, j'ai plus... Fait qu'il manque... Il faut tout le temps que tu rajoutes un petit peu, malgré que tu as moulé exactement le crâne. Faut que tu en rajoutes un peu. Puis ça, c'est ça que les photos viennent faire la différence. Je sais, OK, il y avait des joues un petit peu plus grosses. L'arcade ici, au niveau de la joue haute, était plus prononcée. Là, tu le vois, tu sais. Mais
c'est vraiment un travail là, minutieux, surtout que c'est de quelqu'un. Là.
C'est de la sculpture, tu sais. Moi, je me compare carrément à une... Si je pourrais plus dire que je suis une sculptrice que d'une taxidermiste, là,
oui, ben c'est ça, c'est une artiste de sculptage. C'est comme moi, j'ai un taxidermiste avec qui je fais affaire, puis dans le fond, lui, il n'achète aucun moule sur le marché. Il sculpte ses moules de A à Z.
C'est tellement difficile.
Un artiste de... Tu sais, je veux dire, c'est pas la partie la plus difficile, ça va être le sculptage plus que d'enlever la peau, puis tout ça, là.
Oui, okay. C'est la partie chiante, tu sais, c'est pas long à faire pareil, là, skinner un animal là, la grosseur d'un chat. Là. C'est juste, c'est plate. C'est la partie plate. Fait que, tu sais, les gens, là, des fois, là, qui me contactent en privé, là, « Ah, tu veux-tu me vendre des peaux tannées, genre de lapin, parce que j'en ai beaucoup? » Puis je suis comme, « Pourquoi je ferais juste la partie plate pour de l'argent, là? » Tu sais, je veux pas ça. Fait que je fais, « Non, je te vendrai pas des peaux déjà tannées pour qu'après ça, tu fasses juste faire le montage, puis faire, « Oh, j'ai fait ça. » Non. Et au moins le mérite de part à zéro, fais tout, puis après ça, tu vas être bien plus fier de ton produit final. Là. Tu vas être bien plus content là, d'avoir tout fait ça toi-même. Fait que, c'est ça, non. La partie plate de skinage, là, je la fais pas pour de l'argent. Je la fais parce que c'est nécessaire, parce que je fais pas confiance à personne d'autre que moi pour faire ce travail-là. Je serais pas game d'envoyer le chat de quelqu'un d'autre à quelqu'un pour « let's go, skin-le, fais le montage, puis tout, puis qu'après ça, la peau, elle me revienne. » Tannée tout croche, tannée trop dur, puis... avec plein de trous. Ça me tente pas. Là, après ça, là,
mettons... Tu sais, quand tu offres tes services, là, puis tu offres les nettoyages de crâne, puis tout ça, ça, c'est quelqu'un qui va le faire?
Oui. Je fais affaire avec des spécialistes que, justement, ils vont prendre le temps de vraiment bien nettoyer, parce que je pourrais le faire par moi-même, mais là, il faudrait que je me trouve une colonie de dermestres, parce que c'est ça, c'est nettoyer avec des dermestid beetles.
Ouais.
C'est un procédé qui est long, mais qui est extrêmement efficace, parce que ça va
à
vraiment...
À grosse quantité, tu peux pas juste avoir ça pour nettoyer trois crânes, parce qu'il faut que tu leur donnes la bouffe à tous les jours à ces dermestres-là pour qu'ils nettoient. Ça te prend un enclos spécial. Là,
absolument, les gens, c'est ça. Ils prennent des vieux congélateurs tombeaux qui ne marchent plus, ils remplacent le moteur de réfrigération par une ventilation. Puis, mais c'est ça. Ça pue quand même.
C'est ça. Il y a quand même une odeur de mort.
Mais oui. Fait que c'est ça. Ton tuyau, il faut que tu le mettes dehors. Il faut que tu aies une sortie extérieure. C'est compliqué. Moi, j'en connais juste deux au Québec qui font ça.
Oui.
Puis,
même en même temps, tu quelqu'un qui te confie son animal, puis qu'il faut t'envoyer quand même une partie à quelqu'un, c'est quand même touché de dire est-ce que la personne pourrait l'avoir mélangé? Est-ce que la personne pourrait.
Ben, T'sais. Moi, j'ai mes trucs. C'est sûr qu'à chaque fois que j'ai le crâne avant de l'envoyer, j'ai mes petites fiches d'identification de dents. Que je dis, bon, il manque telle dent, il manque telle dent, il manque telle dent. Fait qu'au moins, je l'inscris. Je mets aussi un tie wrap après le crâne qui met le nom. J'ai la couleur. Tout ça est inscrit. Avant de l'envoyer, là, je ne fais pas comme juste envoyer un crâne de même. Mais c'est ça. Fait que quand il me revient, il y a
le tag
encore après. Puis je regarde les dents. C'est les mêmes dents qu'il y a.
Quand c'est tes clients, toi, c'est important pour toi de leur offrir un bon service.
C'est crucial.
Que la personne qui va faire la sous-traitance, elle...
C'est ça, j'ai bien de la misère à faire de la sous-traitance dans mon travail, mais dans ce cas-là, j'ai pas le choix. C'est pareil pour la crémation. J'ai pas de four crématoire chez nous, là. T'sais. Mm-hmm. J'ai pas le choix de faire affaire avec quelqu'un, mais j'ai trouvé justement quelqu'un au Québec qui fait de la crémation, seulement de la crémation individuelle. Donc, je suis sûre à 100% que c'est pas de la crémation de groupe qui est ensuite séparée. Puis aussi... C'est ça, il fait de la crémation individuelle.
Est-ce que c'est seulement animaux ou humains aussi?
Non. Ben, en fait, c'est drôle parce que ce monsieur-là, ça donne que c'est mon grand-oncle. C'est vraiment un addon. Mais lui, il a été thanatologue pendant, mon Dieu, toute sa vie. En fait, le fait de faire de la crémation d'animaux domestiques, c'est sa retraite.
Okay.
C'est, il est parti à la retraite. Il y avait comme 10 centres de thanatologie. C'était comme un gros nom, là. Il dans le coin de Montréal, puis tout, là. Okay. Puis il a tout vendu ça. Puis l'affaire, c'est que quand il a vendu, la personne qui a racheté, il a fait signer une clause de « t'as pas le droit de retourner dans le métier, tu sais, pour faire compétition.
Ouais. »
Fait que lui, la seule chose qu'il pouvait faire, c'est justement travailler avec les animaux. Mais justement, il fait aussi de la thanatologie animale. Parce qu'il y a une... C'est très niche. Il y a des gens qui veulent ça. Il me dit surtout dans...
Pour exposer leur
animal? Oui. Il y a des gens... qui font exactement comme avec les humains. Il y a un cimetière animal à Montréal.
Ouais.
Puis c'est ça, justement. Lui, c'est le seul thanatologue. Moi, en fait, je suis la seule taxidermiste d'animaux domestiques dans le coin. Puis lui, c'est le seul thanatologue d'animaux domestiques.
Puis vous êtes genre reliés familialement.
Familialement, c'est un addon, c'est fou, hein?
Oui.
Puis je m'en ai rendu compte, là, dernièrement. Puis là, en tout cas, Michel, qui s'appelle le propriétaire, il était quasiment prêt à... donner sa compagnie, genre, à sa mort parce qu'il n'y a pas d'enfant, puis tout. Puis là, je suis comme, non, je veux pas. Bien, il cherche des employés. Fait que s'il y a des gens, appelez Michel chez Or Animal, il cherche des employés fiables. C'est ça, moi, je t'avais dit, je peux te poser une question morale?
Oui, vas-y.
Parce que je l'ai posée tantôt à Laurie, puis elle a trouvé ça super pertinente. Mise en situation. Tu as 100 $ OK? Il faut que tu fasses un don avec ce 100 $-là. Tu as le choix entre deux options. Première option, tu le donnes à une personne sans domicile fixe qui va l'utiliser pour un trio chez McDo, de la bière cheap et deux paquets de clopes. Mm-hmm. Ou tu le donnes à un hôpital pour de la recherche sur le cancer. Tu le donnes à qui?
Mais c'est sûr que la question morale, ce serait de donner ça à 100$ à un hôpital, mais est-ce qu'il l'utilise vraiment?
Je sais pas, moi, ouais. Je te pose la question à toi. Toi?
Ben, 100$ à un hôpital.
Pour vrai? Moi, je le donne à l'itinérant.
Ouais, pourquoi?
OK. Parce que à l'itinérant, tu viens carrément de changer sa journée avec ce 100$-là. Même si c'est pour, à la limite, même si c'est pour de la drogue, même si c'est pour un trio McDo, ce 100$-là a vraiment fait une différence, en tout cas pour moi, concrète, visuelle, avec quelqu'un, tu sais.
Mm-hmm.
Tandis que donner 100$ à un hôpital pour la recherche sur le cancer, ça, ce 100$-là, c'est une goutte dans l'océan.
Ouais.
Tandis qu'il y a des gens qui, des fois, qui font don de millions, puis tout.
T'as raison.
Mais non, je veux pas, c'est pas le fait d'avoir raison. Moi, c'est ce que je pense.
Non,
mais regarde, mon chum, on s'en est parlé de cette question-là, puis mon chum, c'est la même chose. Lui aussi, il dit, moi, je donnerais 100$ à l'hôpital. Puis,
ouais.
C'est ça.
C'est parce que je pense que c'est éthique, morale. Tu dis, OK, tu veux aider le monde en cancer, tu veux bien faire. Mais si tu penses à ça, c'est comme vision mondiale. Là. Tu donnes 100$, puis 1% même pas qui sera au petit.
Ouais, mais là,
enfants,
tu le donnes directement à la personne dans le besoin. Puis en plus de ça, bonus, cet itinérant-là, il te voit aller donner 100$ de même, puis... Pour lui, peut-être qu'il aurait pris espoir en l'humanité. Là. Quand que lui, dans son itinérance, il se dit « l'humanité, c'est
de la
stigmate. »
Mais tu me poses la
tout.
Question, puis je te dirais que ça dépendrait de l'itinérant.
Ah ouais, OK. Ce serait quoi l'itinérant parfait qui mériterait un 100$?
Ben, ça va être quelqu'un qui est réellement dans le besoin.
Mais je pense que les itinérants sont tous dans le besoin.
Il y a du monde qui ont des apparts qui sont en dessous de BS, qui ont des jobs en dessous de la table puis qui font comme job de quitter de l'argent sur le coin de la rue. Je trouve pas ça fair.
Ouais, mais il y a des gens qui font des streams puis que tout ce qu'ils font, c'est genre quitter de l'argent aussi en même temps, là, mais d'une manière différente. Tu sais, moi, pour moi, c'est valable pas. Les deux, là, l'itinérant ou le gars qui stream.
C'est parce que ça me ferait mal au cœur de savoir, même tu dis, tu sais, la drogue, ça te dérange pas, mais ça me ferait mal au cœur de savoir que je voudrais aider quelqu'un qui irait s'acheter quelque chose pour s'intoxiquer, pour se détruire encore plus.
C'est sûr.
C'est ça. Moi, c'est cette façon-là que je le vois.
Oui. Mais c'est ça, c'est touché, hein?
Oui, c'est vraiment touché.
Hey, t'as-tu une question pour moi?
Attends. OK. Toi, t'es plus...
Sinon, il y a Bambi qui veut savoir... En parenthèse, Bambi Lodo. Il veut savoir, t'as-tu des objets nazis dans ton musée?
Ah ah! C'est une bonne question.
T'en as-tu? Parce que j'en vois pas. Il y en a-tu des cachés?
J'ai pas grand-chose, mais j'ai des casques de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, qui ont été trouvés avec genre détecteurs de métaux par du monde qui vont dans la forêt trouver des affaires. Ça provient d'Ukraine. C'est des casques qui sont tagués nazis. Là. Il y a des...
ouais, le signe nazi. Nazis
dessus. Donc, j'ai ça qui a été ramassé pour le côté historique. J'ai aussi un mugshot d'un officier nazi. c'est cool. Qu'est-ce que j'ai? J'ai quelques petits objets.
Mais ça fait pas... t'en as pas beaucoup dans
j'ai
ta collection.
J'ai pas beaucoup parce que ils ont comme banni ça des sites de vente. Donc, mettons, tu peux plus acheter des trucs nazis sur eBay, sur Etsy, des affaires de même. Puis ça, je trouve ça ridiculement con.
OK.
Parce que en fait, c'est parce qu'ils disent que, bon, ça fait préjudice, puis c'est éthiquement pas correct, puis tout. Mais en
ça,
fait,
c'est un peu cave parce que ça fait quand même partie de l'histoire.
Ça fait
le cacher, je trouve, c'est pire.
Oui.
Non, c'est justement qu'il faut en parler des mauvais côtés de l'histoire pour dire, regardez comment on était cons avant.
Oui.
On apprend de ça.
Puis c'est n'importe quoi comme des affaires de collection que je vous montre. C'est toutes des affaires qu'il y a des côtés dark, il y a des côtés positifs. Puis c'est la même affaire avec le côté nazi. Comment quelqu'un a pu endoctriner une population aussi grosse, aussi facilement à faire des choses qui étaient horribles comme ça? Il faut étudier ce genre de cas-là pour ne pas que ça se refasse.
Oui.
On parle qu'il y a eu des exemples similaires dans les dernières années. Je ne vais pas donner plus d'exemples.
On n'en parlera pas
mais
plus.
Mais écoute, je pense que la population se ferait encore endoctriner dans des affaires de
facilement. Facilement. En plus, avec les réseaux sociaux, puis c'est tellement facile.
Exact. Si on contrôle les publicités, on contrôle aussi. Fait que ça peut dégénérer assez vite.
Ça pourrait encore,
donc, pour l'histoire, moi, je trouve ça super intéressant de savoir exactement ce qui s'est passé, combien de personnes sont mortes, quelle façon a été faite, quelle étude.
Parce qu'il y en a qui pensent que les camps de concentration là, de juifs, que ça n'a pas existé.
Oui.
C'est épouvantable, ça, là. Cacher ça.
Je
ne
sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. C'est sûr qu'il y a peut-être des affaires qui disent qu'ils ne sont pas vraies. Mais oui, les camps de concentration ont existé.
Il y a des films, là. Il y a des films de tout ça. Ça a été filmé, là.
Ça a été tout ça, tu sais. Fait que... Puis, je parlais avec beaucoup de gens qui sont juifs, qui collectionnent les items nazis.
Oui.
Et ce n'est pas parce qu'ils en veulent à ces personnes-là, mais c'est parce que c'est leur histoire.
Oui.
Puis, ils sont intéressés à ça. Fait que... Moi, ça, je trouve ça un peu con là, de faire comme « Ah, t'es un couteau nazi, t'es un nazi. »
Mais non!
Ça n'a aucun rapport.
Le côté historique de la chose, mais c'est comme t'as des crânes humains et t'es pas une tueuse d'humains.
Mais non,
c'est
des affaires vaudou, je pratique pas le vaudou chez nous.
J'ai des chats empaillés chez nous. Je tue pas des chats, là, tu sais, c'est ça.
Fait que je pense que, tu sais, aujourd'hui, on est dans un ère où les gens se jugent trop facilement toutes.
Mm-hmm.
Puis... c'est dommage, tu sais.
Ouais.
Il y a sûrement beaucoup de pièces d'histoire qui sont détruites à cause de ça. Là.
Mais aussi, j'imagine que c'est un peu comme n'importe quoi. Là. Il y a des pièces là, nazies qui ont été sûrement reproduites, là, des faussetés. Mais ça, je pense qu'il y en a dans pas mal.
Mais dans pas mal. Mettons, si je parle dans mon domaine, là, oddities et tout. Toutes les memorabilia de guerre, là, tout ce qui est nazi, il y a vraiment beaucoup de fakes. Tout ce qui est artefacts romains, il va y avoir beaucoup. Okay. Artefacts égyptiens.
Ah, ça, égyptien, c'est sûr, parce qu'en plus, ça, il n'y a plus rien qui sort de là. Fait que c'est encore plus précieux.
Fake. Puis ils sont bons, là, les gars qui font du fake, là, je te dis, là, ça a l'air.
Ils mettent beaucoup de temps et d'énergie, là.
Ça a l'air réaliste, bon. Une petite queue solaire.
Ouh, pas grave.
Oui, non, tout ça. Tout ce qui est. Tu sais, même les crânes humains. C'est des vrais crânes, mais c'est des affaires touristes. Donc, ce n'est pas des trucs qui ont été utilisés dans des rituels.
Tu l'emploies souvent, ce terme-là, des crânes touristes.
Ouais.
Ça, c'est vraiment la majorité du temps, c'est, mais c'est pas tout le temps des reproductions. Là.
Non, c'est tout des vrais crânes. C'est juste que les crânes n'ont pas été utilisés. Mettons, on va prendre un crâne asmat qu'on appelle touriste. Ça va être un crâne qui va avoir été décoré par la tribu, qui va avoir été ramené d'Indonésie, tout, mais le crâne n'a jamais été utilisé comme oreiller.
Physiquement, il est pareil. Il est pareil. Ils ont utilisé, supposons, la même personne peut l'avoir fait, mais eux autres, ils ont commencé à faire ça parce que justement, il y avait le côté monétaire. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient les vendre à fort prix. Ça. Fait qu'ils se sont dit, OK, on va réutiliser les crânes, on va.
Mais pour moi, des fois, il y a des items que je n'aurais pas le budget de pouvoir me permettre.
La différence d'argent est
immense. Puis de l'avoir en touriste, sachant que c'est quand même un vrai crâne qui vient de là-bas, ça ne me fait pas grand-chose d'autre vu que moi, je ne suis pas là pour la spiritualité de ça.
C'est là pour le côté historique.
Je suis là pour le côté historique. Donc, c'est ça qui m'importe. Quelqu'un qui voudrait plus prendre le côté spirituel voudrait quelque chose qui aurait été vraiment utilisé dans des rituels puis des choses comme ça. Puis ça va être après tous les artefacts, toutes les choses comme ça, tout ce qui est dans l'art africain, là, les masques africains, tout ça. Je vois beaucoup de monde qui ont des collections de masques africains. Puis, tu sais, en général, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien, sauf si c'est des masques qui ont été utilisés pour des ensembles de cérémonies puis des affaires comme ça. Là, on parle de des masques qu'on pourrait vendre 10$ à des masques qui vont passer à 50 000$ à cause qu'ils ont été utilisés. Wow. Donc, il y a vraiment un gros gap. Puis ça, c'est une autre affaire à checker parce que moi, je ne m'y connais pas là-dedans nécessairement dans les masques africains. Fait que je rentre pas trop. J'en ai 2-3, mais comme c'est parce que je les aime. Mais ça peut arriver, ça, dans un marché aux puces, dans une vente de garage, que quelqu'un a ramené un masque d'Afrique en voyageant, puis c'est un masque qui a été donné par les places qu'ils ont visitées, puis qui a vraiment été utilisé et qui vaut super cher.
Puis eux autres, ils pensent, ça, c'est juste un masque, ça ne fait pas dans ma décoration, oui, on va le vendre au marché aux puces. Oh, ça arrive encore. Ça moi, je pensais que ça arrivait à ça à une certaine époque, mais
pour les masques africains, oui, parce que c'est pas tout le monde, là. Il y a bien du monde qui voyage, puis qui s'en foutent, là, ils reçoivent un cadeau, puis. Puis voilà. Non, le masque africain, ça peut arriver. Et tout ce qui est poterie chinoise aussi, là, je ne sais pas si tu avais vu, ça avait passé il y a quelques années dans le journal. Il y avait une dame qui avait ramassé une poterie à 5$ dans une vente de garage. Puis elle l'a mis aux enchères. C'est vendu pour 1 ou 2 millions.
Wow!
C'était un vase qui datait de telle dynastie. Puis,
quelqu'un l'a reconnu puis a fait... Oh my God.
Vase de ça. Mais la dame, elle a pensé qu'elle avait acheté un pot antique chinois à 5$ dans le monde de garage. Là. Fait que,
ouais, c'est vrai que des histoires de même, ça arrive encore.
Oui, puis il faut regarder quand tu regardes en dessous de ta vaisselle. Parce que moi, j'ai quand même, dans la maison, j'ai un petit vaissellier avec de la vieille vaisselle. Puis je regarde en dessous. Est-ce que c'est made in Japan, made in occupied Japan, made in Nippon? Si c'est toutes ces affaires-là qu'il y a en dessous, ça date de différentes années.
C'est ça, c'est des différentes années.
Plus que ça descend, parce qu'il va toujours être écrit quelque chose en dessous, puis ça va tout le temps te dire, OK, ben ça, quand c'était fait, mettons, made in Nippon, c'était début 1900, fin 1800, début, fait que tu le sais que ça date de ce temps-là. Occupied Japan, je n'ai pas checké l'histoire, mais pendant que le Japon était occupé, je ne me souviens pas c'est quelles années. Là.
Il y a eu une période, c'est une période précise.
Exact. Fait que tu sais que la valeur va varier par rapport au la date, si l'item est en bonne condition, qu'il n'est pas brisé ou tout ça.
Quand c'est made in Japan, cheap, cheap, cheap.
Ben, c'est plus récent. Là. C'est l'affaire des années 90 et plus. Ça vaut pas cher, mais même en même temps, tu sais, je me souviens, quand j'étais jeune, on allait au dolo. Puis là, je dis ça à du monde, là, genre un peu plus jeune que moi, là. Puis je suis comme, tout était 1$.
Ouais.
C'était 1$. Il n'y avait rien à 2$. Puis là, le monde sont comme,
Non, non, à Star Dolorama, c'est 5$.
Ben oui.
Tout est à 5$. J'arrive au dolo, puis je suis comme, oui, on se met cher, Chris.
Hey, j'avais 5$, plus taxes, là, mais j'avais 5$, puis j'avais 5 items.
Mm-hmm.
Puis ça, le monde ne catch pas. Mais là, je vais, mettons, dans des Saint-Vincent de Paul, des villages de village, des affaires comme ça, puis je vois des items que je voyais au dolo il y a 20 ans à Saint-Vincent, qui étaient 3$, tu sais, 3-4$. Puis quand tu étais au dolo, il y a 20 ans, ils étaient 1$. Fait que là, ils se vendent encore plus cher dans les magasins seconde main qui se vendaient au dolo.
Oui, mais encore là, c'est juste une question de la société. Tout ce qu'elle veut, c'est de l'argent. Tout le monde veut de l'argent. Tout le monde, tu sais.
Mais quand le Dolorama de 20 ans était plus de qualité que le Dolorama d'aujourd'hui. C'est juste ça que je veux vous dire. Il y avait quand même des belles affaires. J'achetais des belles petites boîtes à bijoux en métal, puis tout, là, comme à 1$. Là, pis,
Des fois, tu trouves des affaires qui n'ont quand même pas pire au Dolorama.
Mais pour ma bricolage, je l'aime bien.
Oui.
Les pinceaux, puis tout ça.
Ça, je te l'accorde moi aussi. Là. petite peinture acrylique, là. Mon Dieu, ça fait un job bien
raide. Ça fait un job parce que tu sais, chez Michaels, tu payes trois fois le prix.
Ouais.
Mais j'adore aller chez Michaels, pareil, pour les fleurs en plastique.
OK. Moi, j'ai une question. Je sais pas si tu vas aimer ça qu'on parle de ça, là, mais moi, personnellement, ça me dérange pas qu'on parle de ça, mais c'est quoi ton rapport à l'argent? Parce que, tu sais, on s'entend-tu que tous les deux, on travaille avec des choses qui valent quand même beaucoup d'argent, puis...
Je te laisse commencer.
Ah ouais? moi, je me suis rendu compte dernièrement que j'étais vraiment séraphin, si on peut dire. Moi, mon conjoint, on est vraiment un petit peu gratte-scène. Tu sais, on dépense pas, on est beaucoup économe. Comme là, notre mission, c'est genre de clairer notre hypothèque. Tu sais, on est vraiment là-dessus. Là, yep. On est vraiment ce genre de McSween là. Là. Puis, tu sais, pour te dire, moi, je me suis rendu compte qu'acheter genre des pains à hot dog, ça coûtait trop cher pour des hot dogs. Fait qu'on a décidé à commencer des fois à faire des sandwichs à saucisse à la place.
Ça coûte genre... pas cher,
non, mais c'est parce que je t'explique, OK? Le rapport pain-saucisse est pas super parce que comme t'as une saucisse dans un méga pain, puis là, tu retrouves tout le temps à avoir une bouchée de pain-saucisse. Bouchée de pain-saucisse. Tandis que si tu fais un sandwich à saucisse, attends, je t'explique. Si tu fais un sandwich à saucisse, c'est que tu prends du pain tranché, toasté, tu le mets dans le toaster, OK? Puis tu fais cuire deux saucisses. Puis là, tu peux prendre de la saucisse d'un petit peu plus de qualité, genre tu peux prendre de la merguez, OK? Que tu fais cuire, que tu coupes sa longueur. Fait que là, tu prends deux saucisses coupées sa longueur, que tu mets ça dans ton pain tranché, puis là, tu le montes comme un sandwich. Fait que tu peux rajouter de la moutarde, du chou. Un sandwich aux saucisses.
Un hot-dog.
C'est pas un hot-dog, c'est un sandwich à saucisse, mais c'est encore plus délicieux. Mais ça, c'est genre...
Ça coûte moins cher.
Ça coûte moins cher. Tu sais, je cuisine beaucoup plus. En tout cas, je me suis rendu compte que je dépensais pas... Je m'en vais cueillir mes champignons dans le bois parce que c'est très anarchique aller cueillir des champignons puis les manger. Ouais. Ça coûte rien. Ça coûte absolument rien. Puis là, je suis quasiment rendue à un stade où est-ce que, genre, je vois de la chicorée sur le bord de la rue puis je suis comme... Elle me tente d'aller l'accueillir, là, d'aller faire sécher les racines, là, puis tout. Là. Je suis rendue à ce stade-là. Là. Pas nécessairement grano, c'est plus le côté, côté économe. Côté que tout coûte tellement cher, justement. Là, il y a encore des affaires dans la nature qui sont gratuites, qu'on peut utiliser. Je veux dire, let's go, gang.
Je ferais tellement ça si mon chum mangerait des légumes.
Ah, toi, t'es un carnivore mangeur de viande.
Il fait comme, ben, je mange des légumes, je mange des patates.
C'est très slave. Écoute, il s'entendrait bien avec mon chum. Ben, il s'entend déjà bien avec mon chum. Très, très slave. Viande, patate.
Je peux faire des asperges, je peux faire ci, je peux faire ça. Fait que là, finalement, on se retrouve à manger un steak patate tout le temps. Fait que
je peux pas
économiser en mangeant des steaks patates. Et puis, sinon, on va au Costco. Puis au Costco, tu peux pas économiser quand tu vas au Costco.
Non, écoute, t'achètes en gros.
Ça te coûte encore plus cher.
Ouais.
Parce que tu manges plus, parce qu'il faut que tu passes de la bouffe que toi. Parce que Chris, à un moment donné, est plus bonne. Fait que, non, je te dirais que nous autres, on n'est pas économes.
OK.
Puis pour te faire mon rapport à l'argent, je ne vis pas au-dessus de mes moyens.
OK.
Mais je ne vis pas en dessous non plus.
OK.
Je vis avec l'argent que j'ai au jour le jour, puis...
C'est comme, en fait, si tu vivrais, genre, une paye à l'autre, là, si on peut dire.
Ben, je te dirais que le trois quarts du monde aujourd'hui sont plus rendus de même, tu sais. Je le vois avec mes clients qui achètent des affaires, ils sont comme, OK, ben, tu sais, j'achète ça cette semaine, à ma prochaine paye, j'achète ça à ma prochaine paye.
Ouais.
Fait que, tu sais, tout le monde se gage selon leur paye pour acheter des choses, mais je te dirais que moi aussi, je suis de même. Surtout, ça, c'est à cause de ma maladie du collectionneur. Parce que je vois des affaires à vendre. Puis je suis comme.
C'est comme, faut que tu la jettes là.
Je veux la jeter là. Je suis juste comme, OK, ben, je t'envoie un dépôt. Puis là, je vends quelque chose, je le paye. Fait que, tu sais, j'ai un bon
moment. Mais au moins, tu peux avoir une monnaie d'échange, là.
Oui.
Tu sais, tu peux au moins dealer avec le gars, dire, écoute, il me manque 500$ là, pour pouvoir le payer là, mais tu sais, j'ai ça. T'es-tu intéressé ou t'es-tu intéressé à quelque chose? C'est ça, mais tu as quand même moyen de clairer la transaction, là. Tu sais, moi, c'est pas ça. C'est dommage. C'est pas tout le temps ça que je vois avec mes clients, là. Tu sais, des fois, j'ai des clients, moi, qui vont me payer 100$ par mois, là, pour une facture comme de 1005, là, pour un. Soit une taxidermie. Fait que c'est comme. Je trouve ça tellement malheureux parce que moi, en plus, on parle d'animaux domestiques. Là, t'sais, y a un deuil à faire là-dessus. Mm-hmm. Là, t'sais, la personne, elle veut la revoir le plus rapidement possible à la maison. Mais moi, ma politique, c'est que je ne commence pas le travail tant que ce n'est pas payé à 100%. Parce que j'ai encore une taxidermie chez nous que j'ai fini de faire, mais elle n'est pas finie de payer. Puis le client, ça fait 2 ans.
Ouais.
2 ans qu'il n'a pas fini de la payer. Puis que le chat, il est bien beau. Il est chez nous. Mais ce n'est pas mon chat. Puis il est sur ma tablette. Il n'est pas à moi, là. Il appartient à quelqu'un.
Non, puis là, tu t'attaches. Puis t'es comme, va falloir
mais c'est que la personne ne me répond plus. Puis là, je fais comme, je fais quoi?
Mais tu fais signer des contrats aux gens.
Maintenant, oui. Mais c'est la dernière personne à qui j'ai pas fait signer de contrat. Fait que je suis comme dans une zone grise de néant qui fait en sorte que...
Moi, je lui enverrai un contrat. Puis sur le contrat, il serait écrit genre, t'as tant de temps pour répondre avec le contrat. Puis après ça...
C'est, j'essaie tellement d'accommoder tout le monde. Puis je le sais que... Je sais que la taxidermie d'animaux domestiques, c'est cher parce qu'il y a des raisons à ça. Ça prend du temps à faire. Il y a le côté « j'ai pas le droit à l'erreur ». Il y a le côté émotionnel qui rentre en bout de ligne. Tout est fait sur mesure. J'aimerais ça, être capable d'acheter une forme de chat commercial, juste avoir à faire le tannage, faire le montage, fini, bonsoir, merci, il est beau, il est fait, il est fini. Mais c'est pas ça, la réalité. Ça marche pas ça même. C'est, comme on dit, c'est tout un travail de sculpture. C'est un travail de moulage, de carcasse. Tout, il y a pas deux chats pareils. Il y en a qui sont gros, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont maigres.
Ouais.
Fait que je peux pas me fier
à... Tu peux pas sortir ta boîte de moule puis j'utilise lui pour c'est... lui. Non,
exactement.
C'est vraiment un costume pour chaque.
Fait que c'est pour ça que ça coûte cher. C'est du temps qui se paye. Puis même à ça, je ne... même s'il y a des gens qui disent « Ouais, c'est cher, tu charges super cher », mais d'un sens, je regarde ce qui se fait aux États-Unis, puis je pourrais charger encore le double, puis je serais encore d'un prix.
Ton travail est excellent. Là, fait que...
Mais tu sais, c'est ça. C'est, j'essaie d'accommoder tout le monde, mais à un moment donné, ça va devenir... Je pense que ça va devenir un petit peu trop lourd émotionnellement pour moi. Fait que je le sais pas, sincèrement. Être sincère, là, je sais pas si je vais faire ça toute ma vie.
Profitez-en si vous avez des chats à faire monter, parce qu'après ça, moi, elle fait juste des affaires qu'elle veut.
Après ça, je vais devenir une sorcière dans le bois, me construire un petit chac, puis je vais manger des champignons puis des herbes, puis je vais vivre pas d'argent avec mes panneaux solaires. Puis
c'est malade. Vraiment,
j'aimerais ça, pour vrai.
Moi, tout, j'aimerais ça.
Ah, c'est j'aimerais
partir,
ça.
Là, puis juste être comme minimaliste. Mais comme, j'étais pas essayée d'être minimaliste. Puis ça, je me suis déjà dit, j'aimerais ça comme... me libérer de tout le poids des épaules, de tous les items que je tiens. Mais c'est ma vie.
Ouais.
C'est ma vie,
c'est
le
ta
musée.
Personnalité
c'est
aussi.
C'est ma personnalité. Je peux pas faire ça. Je pourrais pas me dire, me réveiller, me demander, OK, je vends tout. Non.
Est-ce que Vanessa existerait sans son musée?
Non. J'ai toujours eu une collection, un musée, une pièce avec des depuis que j'ai 5 ans. Ça serait pas moi. Si ça serait pas ça.
T'aurais carrément un manque, comme si quelqu'un te couperait un bras.
Je voudrais racheter des affaires parce que j'étais comme, ah, oh, j'aime ça. Mais ça servirait à quoi d'acheter des affaires?
Je pense que tu finirais par racheter ton musée à la personne à qui tu l'as vendu.
Mais mettons qu'il y a quelqu'un qui me donnerait, tu me parles du rapport de l'argent, si t'as quelqu'un qui m'offrirait un prix fair pour toutes, peut-être que je vendrais toutes pour avoir un cash down pour pouvoir me repartir comme...
Un autre projet. Parce que t'es quand même la fille à 1000 projets, là,
ouais,
on s'entend.
Exact,
là.
Exact.
Fait que ça serait, je pense que ça serait difficile pour toi, mais tu serais capable quand même de dire, OK, ça a été une partie de ma vie.
Ouais.
Maintenant, je passe à complètement autre chose.
Je vais faire un magasin d'urnes funéraires. je vais faire...
Ou tu deviens guide en spéologie,
oui,
ou d'écrire des livres. J'en sais ça.
Un magasin mexicain, de bouffe mexicaine. Mais je vais faire de la pub. Si vous avez besoin d'une urne, pas à 2 millions de dollars, contactez-moi. Là, je vais trouver une solution. Des urnes pour les gens qui n'ont pas de gros budget. Je m'occupe de ça.
Je pense que tu es resté traumatisé de ton histoire, justement, funéraire, de comment ça coûte cher.
Ben, ça coûte tellement cher. Puis comme, moi, je ne trouve pas tant belles les urnes qui sont proposées dans ces places-là. Fait que... Comme...
Ben, c'est sûr, c'est froid, c'est
froid.
Standard, c'est
non,
pas personnel.
Non, exact. Fait que je me pars, une compagnie d'urnes funéraires.
Pas,
si
pas
ça
trop
vous tente
vite.
D'embarquer, écrivez-moi. Et puis, by the way, en finissant aussi,
oui.
On se cherche des invités cool
qui
pourraient venir parler dans nos podcasts.
Oui, c'est sûr.
Fait que...
Si vous pensez que vous êtes différent, que vous faites quelque chose de différent, qu'on parle jamais à télé, dans le mainstream média...
Que vous savez vous exprimer, que vous parlez en français.
Oui. Ben, malgré qu'on... À la limite, on pourrait faire des épisodes en anglais, mais ouais. Je parlerai pas beaucoup.
Ouais.
Ouais. Mais ça serait possible. Il faut que ça soit intéressant.
Ouais.
Mais ouais. Puis ça n'a pas besoin d'être des gens qui sont nécessairement dans le domaine de l'audities.
Non,
ça
moi, peut être... je voulais quelqu'un en lithothérapie. Ah, oui. Aïe, je me suis cassé le menton sur le micro.
moi, comme je disais, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui tire aux cartes.
Oui.
J'aimerais ça, ça qu'on fasse une cool. séance de ça. J'ai jamais participé à ça.
Séance
ça
m'intrigue.
Oh, ça serait... On joue au Ouija.
Oui.
On joue Ouija.
Ah. En tout cas, si vous avez quelque chose qui nous intéresse ou vous avez un métier là, totalement hors du commun, vous êtes fiers de ce que vous faites, puis tout le monde vous trouve spécial, étrange.
Oh ouais. Let's go. Hey, let's go. Nous autres, je sais que les médias veulent rien savoir de vous autres, mais nous autres, on est intéressés.
Okay, vous avez une religion, vous êtes dans les pastafariens, là, ceux qui se mettent des passes...
Oui!
Let's go, man!
Oh,
on veut
oui,
savoir,
tellement,
on veut
tellement, apprendre. Raison,
vous êtes brigadière scolaire.
Ah, vous chassez des extraterrestres?
Oui.
Oui, je veux, oui. Ça, je veux savoir ça.
Oui, oui.
Je veux voir, je veux entendre l'histoire des histoires d'extraterrestres.
Chasseur de tournades.
Raison.
Ouais, n'importe quoi.
OK. Vous, fait que le message est lancé, puis écrivez-nous. On a-tu un courriel? On a-tu un courriel?
On va en mettre un à la fin.
Oui, on en a un. On en a un? Les curieuses podcast gmail.com? Une affaire de même? Ça pourrait. OK, il est écrit là. Gagnez là.
Ou commentez dans les vidéos, whatever.
Ah, il n'est pas là. En dessous, OK, scrollez, allez lire. Il est là.
Eh bien, merci.
Bye.
Ciao.